Vous êtes branché sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.
Bonjour Saint-Pierre Express, en direct depuis le centre culturel communal de Saint-Pierre-des-Corps. Cet après-midi, il va être question du patronage laïque pendant 2 heures d'émission avec plusieurs invités qui sont avec moi dans le studio autour de moi. Il y a Bia Benjebourg, bonjour.
Bonjour.
Il y a Christine Chaffiol, présidente du patronage laïque.
Bonjour.
Marie-Jo Joly, la directrice du patronage laïque.
Bonjour.
Jennifer Salmon, qui a été animatrice jusqu'au 30 novembre dernier au patronage laïque.
Bonjour.
Léo Haït Mohamed, qui est animateur au patronage laïque.
Qui fut animateur, pardon.
Et puis Bia, qui est...
coordinatrice pédagogique.
Alors, bien près du micro, s'il te plaît. Voilà, coordinatrice pédagogique au sein de l'association du patronage laïque, rien que ça. On va justement parler des orientations éducatives et pédagogiques de l'association tout au long de cette émission, mais on va commencer par une présentation de l'association qui va nous être faite par Christine Chaffiol. C'est à vous.
Oui, donc le patronage laïque a été créé par les habitants et la municipalité de Saint-Pierre-des-Corps. Il s'appelait à l'origine patronage laïque municipal. Donc il a été créé en 1946. Son but était faire que les enfants soient soustraits aux dangers de la rue en leur proposant des temps d'activité de loisirs, donc au moyen du club de gymnastique et de la danse folklorique. Donc... on réunissait les enfants, les jeunes, les adultes en dehors de l'école et du travail. On essayait de les soustraire les enfants d'âge scolaire et post-scolaire aux dangers matériels et moraux de la rue, c'est ce que je viens de dire. On permettait à tous les enfants de bénéficier de loisirs éducatifs et le plus possible en complémentarité avec tous les partenaires éducatifs, familles, écoles. Donc au moyen de centres de loisirs quotidiens. Du ludobus pour le mercredi, les petites vacances, d'animation le mercredi, l'animation dans les quartiers avec le ludobus et au moyen de la section gymnastique, qui est une section à part entière du patronage laïque, qui est affilié à la Fédération de gymnastique avec plus de 330 adhérents. Et la gymnastique s'adresse des tout petits avec la baby gym. On a aussi une école de loisirs, école de gymnastique pour les débutants. Ensuite, on a des groupes compétition et des groupes adultes, voilà, de jeunes ados ou de jeunes adultes qui peuvent pratiquer aussi dans une belle salle spécialisée qui est la plus belle du département. Voilà.
Alors ça c'est pour l'actualité, mais si on revient justement à l'historique de l'association, en 1946 on était au sortir de la guerre, une situation très précaire pour beaucoup d'enfants, certains étaient orphelins, des familles désœuvrées, et c'est dans ce contexte justement que l'association s'est mise en place.
Oui, tout à fait,
pour
oui.
Remédier à cette misère sociale qui existait, et ce déficit d'éducation aussi auprès oui. des enfants, des écoles détruites, des loisirs, et puis j'allais dire toute une enfance à reconstruire.
Oui.
N'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. Oui.
Tout à fait. C'était avant tout le droit au loisir et le droit aux vacances.
Mmh. Un contexte particulier qui a vu émerger beaucoup de mouvements d'éducation populaire qui avaient déjà émergé avant la guerre, mais qui se sont, j'allais dire, remobilisés grâce à des habitants et toujours en concertation avec l'école, comme vous l'avez dit justement.
Oui, il y a toujours un lien fort entre les équipes enseignantes et le patronage laïque. On essaie que ça se passe le mieux possible, même si des fois il y a quelques tensions, parce que les animateurs ont leur lieu de travail dans l'école et ont l'impression un peu des fois de gêner des habitudes.
Il y a pourtant une complémentarité dans les apprentissages qui se faisaient déjà à l'époque, qui se poursuit aujourd'hui avec les TAP, les temps d'activité
périscolaire,
et puis le périscolaire, les accueils périscolaires aussi.
Oui, les accueils périscolaires qui se font avant et après l'école, et le mercredi qui, depuis 2018, est un temps périscolaire, plus un centre de loisirs, mais complémentaire de l'école, du fait que sur les 5 jours, le matin du mercredi, ici à Saint-Pierre, il y a de l'école, mais dans ceux qui n'ont repris en loisirs tout le mercredi, ça reste du temps périscolaire. Je tenais à rajouter tout à l'heure sur l'historique, c'est les enseignants qui sont venus animer le patronage laïque en premier. C'est les enseignants qui ont été les premiers à être des animateurs aux grands arbres, par exemple, l'été. Sur le local, c'est vraiment des enseignants dans les écoles qui avaient envie du loisir avec les enfants qu'ils avaient en classe et surtout pas les voir dévier à côté.
Alors il faut rappeler aussi qu'à l'époque, c'était pas le mercredi, mais le jeudi, il me semble, qui était férié pour les élèves.
C'était le jeudi, le jour férié. Et c'était l'idée de... Les enfants, on les a en classe, on développe des choses et il y a plein d'ouvertures au loisir, au temps récréatif, à toutes ces choses qui sont importantes et au sport. Pourquoi dans le patronage laïque, il y avait aussi le patronage de l'école catholique qui existait depuis la fin du siècle d'avant, et les deux se sont complétés sur les quartiers.
D'accord. Laïque, le patronage laïque, est-ce qu'aujourd'hui il est nécessaire de rappeler justement que le patronage est laïque ?
La nécessité est plus qu'importante dans la société qu'on a aujourd'hui, du fait que la laïcité, c'est pas l'anti-religion, mais c'est bien vivre ensemble avec toutes nos différences et faire que on puisse avoir d'autres objectifs que la religion à tout prix. Et c'est le vivre ensemble qui est le plus important, et bien la laïcité dans sa démarche d'ouverture et non pas de confrontation aux religions, comme certains voudraient nous le faire faire.
Les enseignants qui sont à l'origine justement de la création de l'association, comment est-ce que l'association a évolué? Ce ne sont plus des enseignants aujourd'hui qui s'occupent de l'encadrement des enfants et des jeunes, mais des animateurs professionnels, ou non, enfin, mais des animateurs en tout cas.
Alors, des animateurs professionnels pour ce qui est du patronage, tous les personnes animateurs sont salariés. Les enseignants, il y en a quelques-uns, dans les enseignants retraités qui sont dans notre conseil d'administration. Nous avons également des parents qui sont dans notre conseil d'administration, parce que toute la notion d'éducation, c'est les professionnels certes, mais avant tout les parents. Et à ce niveau-là, c'est la grande diversité au niveau de notre conseil d'administration, et surtout sur repositionner le rôle de parents face à l'école et qu'il y ait bien une complémentarité d'éducation. Et les animateurs, ça a beaucoup évolué. On a une convention collective depuis 86, c'est pas si vieux. Les centres de loisirs, c'est issu dans le début des années 60. À sortir de guerre, il y a eu des patronages qui faisaient un peu du centre aéré, par le fait qu'il y a eu les colonies de vacances, beaucoup par d'autres mouvements. Et puis derrière est arrivée l'organisation gouvernementale du centre de loisirs sans hébergement, et c'est sous cet agrément qu'aujourd'hui on travaille pour la partie centre de loisirs dans le cadre du patronage laïque.
Donc ce qu'on appelle la LSH, accueil de loisirs sans hébergement.
Tout à fait.
Parmi les enseignants, les parents qui sont aujourd'hui au sein du conseil d'administration, quelles sont leurs motivations justement pour animer la direction du patronage laïque? Enfin, quelle expertise ils peuvent apporter les uns les autres?
Alors, la première des expertises, je crois, c'est d'apporter le bien-être de l'enfant. De l'enfant dans toute sa journée, qu'il soit avant l'école, après l'école, revenir à la maison et le reste. Et dans les parents qui ont à cœur, continuent cet esprit qu'on a au sein du patronage, c'est d'associer tout le monde, de faire ensemble... parents, enfants, que les enfants choisissent leur projet, qu'ils aient en cœur de venir et qu'ils ne soient pas au centre en punition, en mode de garde. Alors certes, souvent des parents arrivent pour avoir un mode de garde avant l'école, après l'école, surtout quand on est enfant petit, maternel, les parents ont besoin. Et après, ils découvrent nos activités et ensuite, ils ont envie que ça continue, qu'on ne soit pas un centre de loisirs qui ouvre un catalogue d'activités et qu'on choisisse dedans. Ça, c'est pas nos pratiques.
Est-ce qu'on peut revenir sur le bien-être de l'enfant? Alors c'est un thème qui a été abordé dans la programmation de Saint-Pierre Express hier, mais alors votre point de vue justement? Autour de cette table d'ailleurs, hein, chacun peut intervenir, je ne sais pas. Jennifer Salmon, qui a été animatrice, voilà. Bien-être de l'enfant, c'est quoi pour vous?
Alors déjà, ça va être effectivement de s'adapter aussi à l'âge de l'enfant. Un enfant de maternelle, effectivement, son bien-être, ça va être d'avoir des moments où il peut se reposer, d'avoir des moments où il peut faire un petit peu ce qu'il veut, il a des différents pôles. Il peut se poser à certains moments pour des jeux de société, des moments de lecture. Je dirais que le bien-être, c'est vraiment prendre en compte l'âge de l'enfant et lui proposer des choses qui sont adaptées. Donc ça va être effectivement les besoins plutôt fondamentaux, et à l'ado, plus ils sont effectivement plus âgés, des primaires, ça va être aussi de savoir effectivement ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est vraiment de s'adapter à l'enfant.
D'accord, on peut imaginer que par exemple... Oui, Bia, pardon.
Et puis, c'est avant tout prendre en compte la parole de l'enfant. Au sein de nos centres de loisirs à LSH, mercredi vacances, quels que soient les lieux où on intervient, avec nos animateurs, le souci premier, avant tout, c'est l'expression de l'enfant. On met avec les animateurs un travail chaque semaine. Il y a un travail de 2 heures qui est alloué aux animateurs, aux équipes d'animation, quels que soient les lieux, pour organiser. Donc on a un projet éducatif, on a un projet pédagogique qui est produit, qui est fait par la direction, les animateurs, qui donnent aussi, mais qui découlent bien évidemment de nos statuts qu'a présenté tout à l'heure Christine, du projet éducatif. Donc on a ce projet pédagogique qui est construit en équipe, direction animateur, auxquels sont notés, spécifiés des objectifs d'animation qui vont nous permettre de mettre en place nos projets, nos actions et répondre aux besoins des enfants. Donc, entre autres, l'enfant, comment est-il reconnu ? C'est avant tout les réunions d'enfants que l'on met en place à chaque moment, que ce soit sur le temps d'étape, que ce soit pendant les vacances, voilà. On a des réunions où les enfants peuvent s'exprimer sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aimeraient faire ou ne pas faire, et où nous, animateurs, à partir de là, on prend la parole de l'enfant, on la considère, et nos projets d'animation découlent de ces moments de concertation enfant-animateur. Et famille, comme le souligner tout à l'heure Marie-Jo.
Alors, c'est une petite révolution quand même, parce que enfin, moi je me rappelle de générations passées où les enfants ils se taisent quand on est à table, où tu comprendras quand t'es plus tard, tu donnes pas trop ton avis. Culturellement, la parole de l'enfant, et même aujourd'hui encore, n'est pas toujours prise en compte. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Tant qu'à faire, c'est d'ailleurs assez dommage, parce qu'il y a pas mal de choses que les enfants peuvent nous apporter, même si nous on a une expérience qui est plus poussée en tant qu'adulte, parce qu'on a vécu des temps, ne serait-ce que par exemple le temps de repas. Mmh. On a tous les codes qui nous permettent d'eux, mais pour autant eux aussi ils ont des manières de faire et ils sont en train d'apprendre, donc il faut qu'on prenne le temps avec eux de leur apprendre, ou qu'ils prennent le temps eux d'apprendre, et puis au fur et à mesure c'est des choses qui deviennent normales, mais si on force, finalement, on arrive souvent à des choses qui sont contre-productives.
On aurait des choses à apprendre des enfants ?
Exactement, je dirais que déjà quand on est animateur, on sait qu'on va venir avec notre histoire, etc. Mais on sait qu'on va apprendre aussi des choses des enfants. Ça peut être effectivement des fois leur manière de penser. Ils vont nous remettre en question, je dirais, continuellement, les enfants. Par leur attitude, etc. Je dirais qu'ils ont une facilité à aller vers l'autre, une facilité effectivement à dire ce qu'ils pensent et à dire ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que des fois on peut partir avec un objectif dans notre action, dans notre activité qu'on veut mener, et on va se rendre compte au fait qu'effectivement, c'est pas le moment donné. Donc on s'adapte aussi régulièrement, et c'est vraiment ce qui est important, je dirais, et ce qu'on apprend aussi des enfants, à s'adapter, à se remettre en question et à apprendre, enfin vraiment apprendre de l'autre.
D'accord, donc vous prenez en compte la parole de l'enfant, vous veillez à son bien-être justement qui va dépendre aussi de l'âge dans lequel il se situe. Alors j'imagine que par exemple pour les 3-6, on va plus être sur du développement psychomoteur, de la socialisation, et tout au long, j'allais dire, de l'évolution de l'âge de l'enfant, on va rester justement sur ces développements-là. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le bien-être ? On a dit l'âge, il fallait prendre en considération l'âge, quoi d'autre encore ?
Sur nos 3 missions, on est souvent sur assurer la sécurité physique, affective et morale de l'enfant. Donc là, on va être sur quelque chose de très matériel, faire attention à ce qu'il se blesse pas, voir si on fait traîner un ciseau, à quel moment on le range, pourquoi on le range et comment est-ce qu'on le met dans la main de l'enfant. Sur la sécurité, plutôt, on va dire, morale, dans ce cas-là, ça va être prendre en considération le fait que l'enfant ait des systèmes de valeurs qui sont inculqués par leurs parents. Et donc là, il faut être très précautionneux sur comment on aborde tout un tas de sujets d'ordre plutôt culturel. Et puis donc physique, morale et affective. Affective, c'est bien faire attention à laisser à l'enfant son identité, son droit donc d'aimer ses parents et de pas à aucun moment se sustenter à ce genre de à des relations qui sont pas normales pour une relation enfant-animateur. Et bien se positionner par rapport à ça.
et peut-être avec un échange de savoir, toujours ce qui est à l'angle du vivre ensemble, c'est aussi partager, et partager ces différents modes de vie à la maison aussi. Sur la partie alimentaire, c'est souvent que ça revient, mais sur d'autres moments de vie dans la famille qui sont différentes, et pour nous, il n'y a pas ce qui est bien et ce qui est mal, il y a tout le monde qui partage nos différences et ensemble on partage un moment. Et ça permet d'enrichir tout le monde, ça permet que l'enfant se sente pas j'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai en dehors de la sécurité. Pour le reste, on avance ensemble sur un projet. Et ça, pour les enfants, c'est très important qu'ils se sentent en confiance.
Merci, on se retrouve avec une pause musicale pour poursuivre ces échanges et notamment autour du projet éducatif et du projet pédagogique qui a été évoqué par Bia Benjebour.
Radio Saint-Pierre Express 97.4.
Toutes celles qui portent la frange à la quête Moss,
Summoner. J'entre au coste boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadi et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles qui portent la frange à la quête Moss. Devant le club VIP, y'a plein de Lamborghini. Moi j'arrive sur mon Vespa, on me dit tu rentres pas. Ça m'énerve. J'entre chez Weston, une blondasse au téléphone me dit
je peux vous aider?
Non, je vous ai pas sonné, elle m'énerve. Mon Dieu, elle m'énerve. J'ai plus le mojito au milliardaire. Dans le carré, j'ai tout vomi par terre. J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi, ah, c'est la guerre. Toutes celles qui portent la frange à la quête Moss. Le rouge à lèvres, c'est fini, maintenant c'est le gloss. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Ça m'énerve. Toutes celles qui dansent sur le dance floor comme des princesses. Si t'as la blancarde, ben tu verras leurs fesses. Comme toi qui écoute beaucoup trop fort la musique. Moi je manque le voix, je la vis avec les cris. Ça m'énerve.
Vous êtes branchés sur le 97.4 Radio Saint-Pierre Express.
Eh ben moi ça m'énerve pas d'écouter Radio Saint-Pierre Express, ça me détend. Tout le monde dit que je suis cool, à la page, fun, de bonne humeur. Comment ça se fait, Daniel? Ben je leur explique, j'écoute Saint-Pierre Express sur le 97.4. Ah d'accord. Voilà, puis ils vont. Puis vous pouvez également nous retrouver sur le radio, sur l'adresse http://radioexpress.free.fr. Nous sommes toujours en compagnie du patronage laïque avec Léo Haït Mohamed qui fut animateur au patronage laïque, ainsi que Jennifer Salmon qui fut animatrice au patronage laïque, avec Christine Chaffiol, la présidente de l'association, et Marie-Jo Joly, la directrice, sans oublier évidemment Bia Benjebour qui en est la coordinatrice pédagogique. C'est bien ça?
Tout à fait.
Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure projet éducatif, projet pédagogique. C'est un peu compliqué tout ça. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs auditrices ce qu'est un projet éducatif?
Alors, le projet éducatif, c'est un petit peu ce que disaient tout à l'heure Marie-Jo et Christine. Donc, c'est un axe de travail, des objectifs généraux qui vont conduire les animateurs, les équipes de direction, les référents à produire le projet pédagogique.
Mais alors, il est fait par qui, ce projet éducatif?
Alors, le projet éducatif, donc, il est fait par, en principe, le conseil d'administration.
D'accord, qui est fait de parents, d'enseignants, d'habitants.
De parents, d'enseignants, etc. Et du coup, c'est un petit peu le tronc commun qui va servir aux directions, aux animateurs, de conduire la marche à suivre, entre guillemets, donc à produire nos projets, à produire nos actions, nos activités. Ça nous donne également les grandes lignes sur ce que l'on veut ou ne veut pas auprès des enfants, sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Et voilà, donc grosso modo, le projet éducatif, le projet pédagogique, c'est ça, c'est donner des grandes lignes, des axes de travail pour que les personnes qui ont accepté, qui ont signé un contrat avec l'association, à savoir les salariés, les parents qui sont amenés à travailler avec nous sur nos projets. On a dans notre projet pédagogique et éducatif un projet autour de la parentalité. C'est nos premiers partenaires. Animateurs, donc c'est à mon sens un coéducateur de l'enfance qui vient, on disait tout à l'heure, en complémentarité mener des actions éducatives en complémentarité, donc avec l'école et tous nos partenaires sociaux de terrain, ça peut être les clubs sportifs, etc., etc.
Et c'est là dans ce projet éducatif et ce projet pédagogique qu'il va être question, par exemple, de certains constats tels que il faut prendre en compte la parole de l'enfant, il faut tenir compte du bien-être de l'enfant, il faut tenir compte de la tranche d'âge de l'enfant et adapter notre projet pédagogique justement à cette tranche d'âge. Il faut tenir compte que l'enfant a des parents, que l'enfant va à l'école,
voilà, que l'enfant a des droits. Nous avons aussi un grand chapitre, un grand projet autour des droits de l'enfant. Donc ça, c'était un projet qu'on a mené cette année, d'ailleurs, autour des droits de l'enfant, un petit peu partout sur nos centres de loisirs ou nos accueils périscolaires ou extrascolaires. Donc le périscolaire du matin ou périscolaire du soir, le mercredi après-midi, le ludobus, où on a fait tout un travail sur les droits de l'enfant, donc avec les enfants et les familles aussi qui se sont investis sur ce projet, où on a abouti ensuite à une grande festivité autour de petits spectacles, de moments qu'on a vécu tous ensemble, enfants, familles, animateurs, tous ensemble, au mois de novembre.
Oui, comme chaque année,
année, tout à fait. Alors, le 20 novembre.
Puisque c'est la date anniversaire de la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, par la France en 1989, et c'était le 30e anniversaire.
Tout à fait.
On va faire une petite parenthèse dans cette émission. C'était le 30e anniversaire. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé quand même dans les médias.
On n'en a pas beaucoup parlé. Oui. Et il a été ratifié par la France, mais il y a beaucoup de pays dont on entend beaucoup parler qui ne l'ont toujours pas ratifié.
Les États-Unis, l'Arabie Saoudite.
Voilà. Et puis certains qui l'ont signé et qui respectent pas forcément le droit que l'enfant aille à l'école. Et qu'il n'aille pas au travail, c'est quand même un peu limite. Et si on regarde bien autour de nous, l'enfant qui travaille, c'est en train de remonter un petit peu en France. Donc ça fait aussi partie des choses où on a besoin de réalerter les parents, les enfants et aussi ce qui se passe autour d'eux.
On peut penser aussi à la précarité qui touche les enfants, les mineurs isolés ou alors les enfants de l'ASE, comme ce fut le cas en début janvier 2019, avec une situation préoccupante et alarmante pour de nombreux mineurs qui sortent de l'ASE et dont un quart en fait finira à la rue. Et on peut aussi rappeler que la France est montrée du doigt par le défenseur des droits. Son nom m'échappe, ça va me revenir tout à l'heure.
Oui, puis on peut aussi remonter, l'enfant n'a pas le travail. Mais le fait d'avoir un enfant dans une famille fait qu'on a des droits et quand il n'y a pas d'enfant, on n'a pas de droits. Donc ça fait aussi partie des niveaux social de l'enfant et de la considération de l'humain en France. Pour ça qu'au sein de nos activités, on parle toujours solidarité, on parle toujours humanité et paix. Parce que ça aussi, ça fait partie, comme les droits de l'enfant, de vivre en paix. Et c'est limite quand même à certains moments.
C'est pour ça qu'il y a une colombe sur le sigle de l'association.
Tout à fait.
D'accord. On en revient à notre projet éducatif et pédagogique. Donc ce projet éducatif et pédagogique a été rédigé. J'ai oublié de rappeler, ce qui est pris en compte aussi, c'est la sécurité affective, morale et physique de l'enfant. Et de ce projet, il va découler un projet d'animation. N'est-ce pas Jennifer, n'est-ce pas Léo?
Exactement, il y a des objectifs qui vont être définis dans le cadre du projet pédagogique. Et nous justement, dans le cadre du projet d'animation, on va toujours se baser sur ces objectifs. On va faire le lien effectivement à chaque fois avec les enfants en début de séjour. Et on va s'appuyer sur notre constat à nous. Et effectivement, on va mettre en place ensuite un ensemble d'actions, un ensemble d'activités justement pour répondre aux objectifs qu'on a pu identifier. Donc si par exemple, effectivement, les maternelles, on voit qu'il faut qu'on travaille sur l'autonomie, on va par exemple proposer déjà un aménagement de la salle qui va leur permettre effectivement d'avoir accès à des choses qui les mettent pas en insécurité.
Favoriser l'autonomie, voilà. En fait.
Exactement, mettre en place des petits pôles où ils peuvent aller en libre accès, être vraiment dans cette démarche d'autonomie. Après, voilà, ouais. Tous les objectifs seront à définir en fonction de l'âge de l'enfant.
Pour les enfants en bas âge, c'est effectivement la pièce, l'endroit où ils sont accueillis qui est très important. Après, quand on arrive sur des tranches d'âge un peu plus élevées, ça va être échelonné dans le temps, la façon dont on va pouvoir travailler pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc on se fixe des grands objectifs dont on va pouvoir parler librement pendant avec le groupe, qui serait par exemple un spectacle. Mais en fait, il y a tout un tas de choses qui vont jouer en sous-main. Donc on récupère du projet éducatif. On se dit, par exemple, favoriser l'autonomie au sein de ce projet qui serait de réaliser un spectacle. Comment est-ce qu'on va pouvoir amener les enfants à gagner en autonomie, à pouvoir accéder aux documents eux-mêmes, à pouvoir retoucher s'ils ont besoin de retoucher quelque chose qui sera finalement produit de façon effective à la fin du projet.
Ce qui joue beaucoup effectivement au niveau du centre de loisirs aussi, c'est la prise en compte de la vie de l'autre. On est beaucoup effectivement, c'est un groupe, mais il y a des individualités, des enfants qui vont peut-être être plus sur la réserve, d'autres au contraire qui vont être plutôt extravertis. Et justement, l'objectif aussi du centre de loisirs, c'est de permettre à chacun de trouver sa place. Donc justement, l'animateur, il va essayer par des moyens, ça peut être des actions, une manière de faire, justement d'amener chaque enfant à s'affirmer pour pouvoir, enfin vraiment une prise en compte de chacun.
L'aménagement de l'espace, l'aménagement du temps peut-être, je sais pas.
Oui, tout à fait, le rythme de l'enfant est une de nos priorités également, parce que même si on est sur un temps de vacances, donc un temps de repos extrascolaire, et du coup notre objectif c'est de faire en sorte, en fonction de, on prend un petit peu la température du groupe, des enfants, voir un petit peu si on les sent un peu fatigués, surtout en maternelle comme disait Jennifer, si on sent des enfants fatigués ou autres, en fonction de la météo, il peut y avoir plein de paramètres qui font que nos projets, on va adapter au plus près en fonction des besoins des enfants, de ce qu'ils vont exprimer, de l'état de fatigue, de la météo, de plein de choses, ce qui fait que nos projets peuvent être modifiés, réajustés, d'où la capacité d'avoir dans nos équipes, on parlait de tout à l'heure, donc la première formation de nos équipes, c'est les animateurs BAFA essentiellement.
Alors, ensuite, BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.
Tout à fait. Nous avons également des directeurs, donc le BAFD, brevet d'aptitude
aux fonctions de directeur.
Directeur, tout à fait, des BPJEPS, des
brevets professionnels de l'éducation de la jeunesse populaire et du sport.
Voilà. Pour des anciens, on a le BTEP. Nous avons également BTEP. Le brevet, c'est un brevet.
C'était l'ancien BPJEPS.
L'ancien BPJEPS, on va dire, le DUT et tout ça. Donc ça, c'est les formations de tous nos salariés. Ce que je disais.
Il y a combien de salariés, au fait ? On n'en a pas parlé.
Au patronage, on a 27 équivalents temps plein pour 48 salariés qui passent dans la maison. Certains ont des que petits contrats de complément d'heure. Et il y a, sur les 27 équivalents temps plein, 19 CDI à plein temps. Depuis qu'on a l'étape, on a pu avoir des animateurs qui sont à plein temps, qui travaillent que chez nous et qui n'ont pas à se préoccuper à côté de trouver un complément de salaire. C'est important. Et l'autre chose que je voulais rajouter à ce que vient de dire Bia et les animateurs, c'est qu'il y a une adaptation des animateurs par rapport au bien-être de l'enfant, mais une adaptation quotidienne. Dans nos pratiques, les enfants sont accueillis de 7h30 le matin à 18h30 le soir. L'école étant au milieu, pour les enfants, les parents partent travailler. Les parents travaillent avec des journées de 11 heures maximum, mais avec les temps de trajet plus le reste, des fois les enfants ont des journées encore bien plus grandes. Donc d'où ce qui est beaucoup revenu sur l'enfant fatigué ou autre. Et c'est pas tous les jours qui sont au patronage sur le périscolaire, ça dépend des semaines. En fonction du travail des parents, ça dépend des semaines en fonction de la famille recomposée. Une semaine chez papa, une semaine chez maman, c'est quand même pour une grande partie des enfants. Et à côté de ça, bon, faut, même si à Saint-Pierre-des-Corps on a une grosse aide de la municipalité sur la prise en charge et la CAF à côté, il reste un montant pour la facture et il y a des familles qui ont des budgets très restreints et à ce niveau-là, qui comptent et qui comptent une heure le matin, deux heures le soir pour le périscolaire, 7 heures sur une journée, 5 heures sur une demi-journée, je parle des vacances, au bout du nombre de jours du mois, c'est des factures qui des fois sont pas faciles à régler pour les parents, donc qui réduisent un petit peu pour l'activité des enfants.
On peut imaginer que les enfants des fois voient plus leurs animateurs, animatrices que leurs parents. En commençant si tôt, en finissant si tard.
Alors oui, tout à fait. Et y compris qu'ils sont des fois dans un lieu école où ils ont plus de temps avec les animateurs qu'ils n'ont de temps avec les enseignants. Ce qu'on oublie des fois un peu quand on parle projet d'éducation sur le territoire avec nos partenaires, il y a des moments où on oublie un peu ce cas-là parce que l'animateur pas trop, il embauche à 7h20 le matin pour certains. Il va mettre les maternelles dans les classes à 8h20, ensuite il a une coupure ou une préparation, ensuite il va reprendre sur le temps d'animation sur le restaurant scolaire, sur ce qu'on appelle la pause méridienne, à Saint-Pierre on a 2 heures, et ensuite il va reprendre l'étape par créneau d'une heure et demie l'après-midi, et ensuite derrière pour certains ils refont le périscolaire de 16h30 à 18h30.
Bon. Sacré rythme pour nos animateurs.
Oui, tout à l'heure, en écoutant Jennifer et Léo, je ne sais pas si le terme convient, mais c'est un peu prise de tête de travailler avec des enfants, de prendre en compte le projet éducatif, le projet pédagogique, mettre en place un projet d'animation qui prenne en compte la place justement de ces individus chacun qui forment un groupe, etc. C'est un peu compliqué comme travail, non ?
C'est enrichissant.
C'est enrichissant.
Effectivement, ça peut être. Il y a des moments peut-être, effectivement, ça peut être un peu compliqué, mais c'est enrichissant effectivement de se remettre continuellement en question, d'ajuster, d'avoir des projets totalement différents en fonction du groupe. C'est pas parce qu'effectivement on a les 3 ans qu'on fera toujours le même projet, au contraire. Tout va dépendre du groupe qu'on a, etc. Donc je dirais que c'est à ce niveau-là où c'est enrichissant. Vraiment, c'est une remise en question perpétuelle.
C'est pas de la garderie, hein. On est bien d'accord.
Et moi je compléterais en disant que le travail d'animateur, il faut être passionné, quoi. Si on n'est pas passionné si on n'aime pas les enfants.
Oui, mais les
enfants. Et ça ne fonctionnera pas.
Et puis après, à travers ça, même ce qu'on va pouvoir vivre avec les enfants, et ben, mine de rien, dans notre vie personnelle, on se voit aussi grandir. Quand on dit c'est enrichissant, ça peut prendre des formes très concrètes, comme aller jusqu'à après repasser des diplômes professionnels par la suite.
Et pour rejoindre un peu Léo, l'animation, c'est aussi un travail d'équipe. On n'est pas livré à nous-mêmes. Et du coup, le travail d'équipe en animation est très très important. Il y a énormément de soutien, il y a énormément de d'échanges entre nous. Nous, disait Marie-Jo tout à l'heure, les effectifs, donc ils sont pas petits. Donc on se retrouve régulièrement. Donc je disais tout à l'heure, 2 heures par semaine sont consacrées aux équipes d'animation pour mener un travail de bilan, mener un travail de réajustement, d'échange. Il y a des, comment dire, il y a des rencontres, il y a des, comment dire, il y a tout un travail d'équipe qui est fait au sein de nos structures, quels que soient les postes, et qui est aussi riche que les interventions qu'on pourrait avoir avec les enfants.
On y revient très bientôt après une autre pause musicale, je ne l'avais pas encore dit, donc c'est Elena à la technique.
Ah, je suis allée trop vite.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.
Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belles, belles, belles de jour en jour. Des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou, d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur. Aux yeux de ton cœur, elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.
Avec le patronage laïque, juste avant cette pause musicale, vous l'avez reconnu, c'était Claude François, nous parlions du travail d'équipe nécessaire entre les animateurs et animatrices. Est-ce que vous pourriez un peu développer, parce que alors déjà je vous disais que c'était compliqué de travailler avec des enfants, de prendre en compte un projet éducatif pédagogique et de travailler en équipe aussi. C'est jamais évident. Comment ça se passe, ces réunions, je sais pas, Jennifer, Léo?
Ben, on commence en général souvent de la même manière qu'on introduit les enfants à vivre un groupe ensemble. Bah, c'est-à-dire qu'on va commencer par se découvrir à travers des petits jeux. Donc on a toujours cette partie qui est très importante de rencontre avec le groupe. Et après on va pouvoir commencer donc à relire notre projet éducatif, voir comment est-ce qu'on va emmener nos groupes ou en tout cas notre équipe vers les projets qui sont menés. Mmh. Et on se rencontre à nouveau donc là en mini-groupe, en fonction plutôt autour de du groupe d'enfants et des groupes d'âge qu'on va encadrer. Et donc on arrive à commencer à rédiger vers là où on veut emmener. Après, il faut toujours qu'on laisse suffisamment d'espace et de liberté pour que les enfants puissent ensuite amener au travers des réunions d'enfants, des éléments pour compléter le projet. Donc il n'est pas complètement fixé à la fin de nos réunions d'équipe, il sera amené à évoluer après avec ce qu'on vivra avec les enfants.
Ce qui est intéressant en équipe, c'est qu'effectivement on part tous avec des compétences différentes. Effectivement, il y en a qui vont être plutôt autour du manuel, d'autres plutôt sportifs. Donc c'est ça qui est intéressant aussi quand on est en équipe, c'est d'arriver effectivement à avoir une équipe d'animateurs sur un groupe avec des compétences différentes, et c'est aussi comme ça qu'on va se former nous au fur et à mesure. C'est vrai que moi au départ j'étais pas trop manuel, et au fur et à mesure avec des collègues qui le sont, on le devient aussi. Donc on apprend aussi, on dit qu'on apprend des enfants, mais on apprend aussi des collègues.
D'accord. Quelles sont vos, j'allais dire, vos activités de prédilection, l'un et l'autre ?
Alors moi, on va dire que c'est un peu diversifié. Je me suis adaptée, on va dire, plutôt aux envies des enfants, de ce qu'ils souhaitaient faire, effectivement, de leur centre d'intérêt. C'est vrai que là, sur l'étape, il y a eu énormément de demandes sur du pixel art pour les enfants. Et je trouvais qu'effectivement, c'était une activité ça les passionne, et ça nécessitait forcément de la concentration, etc. Et on avait fait ça en format géant, ils avaient adoré. Donc je dirais qu'effectivement, moi, je m'adapte à ce qu'ils me demandent, ce qu'ils veulent, et j'essaye effectivement de, moi, perfectionner mes compétences pour arriver à, justement, à faire ce qu'ils le souhaitent.
Donc un temps de formation parallèle découle des des enfants.
Exactement.
Ouais, c'est à peu près la même chose que j'ai vécu au fur et à mesure. C'est-à-dire que plus je travaillais à la base, j'étais formé sur les jeux de société. Des jeux de société traditionnels, c'est ce que je faisais en région parisienne avec des animations en pied d'immeuble. Pour autant, ce que j'ai vécu en tant qu'animateur au sein du patronage laïque m'a de plus en plus ramené vers le jardinage. Donc aller au début planter quelques radis, monter quelques jardinières, commencer à s'intéresser à ce que sont les arbres, à ce que sont les plantes cultivables, le maraîchage. Et finalement, ça a été mon sujet de formation il y a 2 ans. Je suis parti passer un BPRA, donc brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, à Vendôme, dans l'espoir de pouvoir amener des compétences que j'aurais récupérées de façon sur un terrain professionnel au sein de mes animations auprès de publics enfants ou même adultes.
Jennifer, aujourd'hui, vous faites quoi, par exemple ?
Alors, aujourd'hui, j'ai arrêté, effectivement, de travailler au patronage laïque en novembre. Là, je travaille sur le dispositif de réussite éducative, toujours sur la ville, effectivement, de Saint-Pierre-des-Corps. Donc, c'est destiné à des enfants qui sont scolarisés ou résident en quartier prioritaire ou en quartier de veille, et qui vont présenter, effectivement, des fragilités à un moment donné. Donc, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de l'accès aux loisirs, au niveau, effectivement, scolaire, c'est assez diversifié. Donc, effectivement, le fait d'avoir travaillé au patronage laïque m'a permis d'être sur les écoles, d'être en contact direct avec les familles, et du coup, ça m'aide forcément dans mon travail actuel.
Il y avait des étoiles de la lumière dans vos yeux, Bia, tout à l'heure, quand vous parliez justement de cette passion qui anime les animateurs. Tu l'as été toi-même ?
Oui, tout à fait. Moi, je suis toujours animatrice. Je suis avant tout animatrice. Donc, je suis toujours sur le terrain, même si parfois, je suis amenée, de par mon poste, à faire des choses et être un peu moins sur le terrain avec les enfants. Mais j'y suis tout le temps. J'y resterai, je pense, très très longtemps, jusqu'au bout, parce que c'est moi. Et puis, c'est tellement riche et important pour moi, la communication, les relations et tout ce que je peux vivre avec les animateurs. On a vraiment une équipe, limite une famille, et c'est tout cet échange qu'on a tous ensemble, ou parfois comme une famille, on peut se fâcher, on peut avoir des mots qui passent les uns des autres, on a tous nos caractères, et du coup, mais on finit toujours par se mettre d'accord, parce que il y a le projet PEDA, de toute façon, qui est là, il y a le projet éducatif nous guide, et les enfants pour qui on est là, et voilà.
Alors les enfants et leurs parents, évidemment.
Et leurs parents, complètement.
Parce que c'est pas vous qui aurez le dernier mot. Quelles sont les relations que vous pouvez, quand même, hein, c'est vrai, l'autorité c'est parentale. Vrai. Enfin, ils délèguent leur autorité parentale le temps, j'allais dire, que les enfants passent à l'école, mais aussi au centre de loisirs. Comment ça se passe, les relations avec les parents ? Il y a des retours que vous prenez en compte, ou peut-être des situations que vous dénouez ?
On essaye de, quand c'est possible, notamment parler de parentalité tout à l'heure, d'amener les parents à vivre les temps d'animation avec nous. Parce qu'en effet, c'est eux qui ont le dernier mot, on n'est pas le papa, on n'est pas la maman. Tout ce qui découle de leur intégrité morale, c'est bien leurs parents qui leur apportent. Donc le mieux, c'est qu'on arrive à vivre ces temps comme ça avait été fait sur une opération de plantation avec le service municipal de la jeunesse. Il y avait eu plusieurs activités. En face, il y avait aussi des ateliers.
Le jardin d'étape.
En face, il y avait aussi des animations qui étaient menées dans la maison de l'Aubrière. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'on va pouvoir rencontrer les parents, vivre des moments avec eux. Et puis, mine de rien, on a même pu voir que des parents vivaient des moments entre parents. Et donc, toute cette émulsion, c'est aussi ce qui nous permet de les aborder, je crois.
C'est l'accès et l'ouverture de nos centres de loisirs. Nos familles, ben, ils nous déposent nos enfants. Il y en a qui peuvent être pressés le matin à 7h30. Mais par exemple, dans nos projets là, aux vacances dernières, et puis c'est dans le cadre de notre projet de la parentalité, on ouvre nos centres de loisirs dès le matin à 7h20, comme disait Marie-Jo tout à l'heure. On a organisé un peu sur tous les sites le petit déjeuner. Donc là, c'était un moment où les familles, on leur donnait les informations. Souvent, nos plannings d'animation sont affichés. Il y a des invitations, il y a notre site Facebook, il y a nos newsletters. Enfin, plein d'informations de
Facebook ou
newsletter.
Newsletter.
Ah oui, d'accord.
Ah, super. Ah, ils vont me reprendre.
Mais non, mais c'est moi, parce que des fois, je suis has-been avec les réseaux sociaux et je me dis, mince, un nouveau réseau social qui existe, que j'aurais loupé. Non, ou les newsletters.
Moi, j'aurais pu inventer le site, ouais, remarque.
Oui, on en invente un, c'est parti.
J'en invente assez tous les jours.
Il est important de communiquer avec les familles.
Oui, hein. Tout à fait. Ouais. Et du coup, les familles, sachant ça, ils prennent. Ils anticipent et prennent le petit déjeuner avec nous le matin. Ils prennent 2 minutes, 5 minutes en fonction de ce qu'ils peuvent. Et du coup, également sur nos sorties, sur tous nos projets ou actions d'hiver, une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois, on va au cinéma avec nos centres de loisirs, nos ALSH. Donc là, ça permet aussi aux familles de nous accompagner. Donc les familles nous accompagnent à ce moment-là. Nos projets d'animation sur nos centres de loisirs qui est ouvert, où les parents peuvent venir donner un coup de main, échanger, aider, transmettre, accompagner comme les animateurs accompagnent les enfants, etc., etc.
Super, enfin oui.
C'est ça, oui, à chaque fin de journée aussi. C'est vrai que le matin, effectivement, comme tu le disais, Bia, ils sont peut-être des fois pressés, les parents, parce qu'il faut qu'ils aillent travailler. Le soir, il y a plus de possibilités, ou en général, si l'enfant est en train de faire un jeu ou en train de faire un dessin, ils vont toujours se prendre ce petit temps pour se poser avec eux, et c'est là qu'on va pouvoir échanger sur comment s'est passée la journée. Des fois, ça, effectivement, s'il y a des choses qui se sont mal passées, les sujets sont abordés de manière assez naturelle avec les parents. Et il y a vraiment ces temps d'échange qui vont permettre aussi, des fois, d'aborder des sujets de la maison, des choses qui se passent aussi à la maison. Donc c'est vraiment, voilà, c'est important ces temps d'échange.
Il y a aussi le fait qu'on ait le lien de l'école pour ce qui est du périscolaire. On est lien de l'enseignant avec les parents, parce que quand l'enfant est déposé le matin, récupéré que le soir, l'enfant n'a que le carnet de correspondance. Et des fois, il y a des mots qui sont donnés oralement aux animateurs qui récupèrent les enfants par rapport aux parents pour le soir, et ce lien-là important. Et quand il démarre en maternelle, et comme nos équipes changent pas trop souvent, ça reste dans la continuité. Les parents abordent des problèmes avec les animateurs qui, à des moments, ils ont pas lieu pour échanger ou pas la disponibilité professionnelle pour le faire.
Mmh. On comprend mieux, je pense, la complémentarité et le rôle que vous jouez dans l'éducation des enfants. Vous portez un autre regard que celui des professeurs et des parents sur les enfants, au final.
C'est ça, parce qu'on n'est pas aussi dans le même contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on va pas avoir les mêmes attentes que vont avoir des enseignants ou des parents. Donc forcément, nous, on n'aura pas les mêmes observations et pas les mêmes constats. Nous, on va être effectivement plus sur du collectif. Donc on n'aura pas forcément les mêmes constats qu'un enseignant. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir un autre point de vue aussi de l'enfant en fonction du lieu où il est et de ce qu'on attend, effectivement.
J'en ai rencontré des enfants, justement, c'était au centre Viala, aux alentours du 20 novembre, je crois que c'était le mercredi 20 novembre, hein, c'était ça, et je leur ai demandé, c'est quoi pour vous un bon animateur ?
Radio Saint-Pierre Express, 97.4.
Voilà. Ça marche. J'ai une question très sérieuse à vous poser, vous allez me répondre chacun votre tour, c'est quoi pour vous un bon animateur, une bonne animatrice ?
Un bon animateur ? Pour moi, c'est un animateur qui propose un bon projet, un animateur qu'on aime beaucoup, qui est gentil avec nous, et que quand on propose des projets, il veut bien faire ce projet.
D'accord, quoi d'autre encore ?
Ou ces jeux de société, les jeux de société qu'on veut, il veut bien nous les laisser.
Hugo, c'est quoi pour toi un bon animateur, une bonne animatrice ?
Un bon animateur, c'est quelqu'un qu'on va bien aimer, comme disait Constant, si on choisit un projet, il pourrait le faire. Par exemple,
À l'écoute.
L'écoute. Comment ça?
Il est à l'écoute, il vous écoute.
Oui, il nous écoute. Et après, sinon, qu'il fasse quelque chose qu'on aime bien.
Mohamed.
Moi, un bon animateur pour moi, c'est comme il a dit Hugo, qu'on apprécie beaucoup, qui nous laisse faire des choses qu'on veut, mais pas des choses très dangereuses et n'importe quoi.
Vous pensez que c'est un métier facile, animateur?
Non, pas beaucoup.
C'est vraiment pas facile.
Garder beaucoup d'enfants, c'est un petit peu énervant.
Pourquoi?
Bah, des fois, il y en a qui font plein de bêtises.
Ah.
Bah, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Mohamed. Mais ouais, c'est vrai que quand on fait des bêtises, et bah les animateurs ils nous fâchent, du coup à la fin de la semaine, s'ils s'occupent de la cantine, du périscolaire et tout ça, ils ont plus de voix à la fin de la semaine.
Vous êtes branchés sur le 97.4 Radio Saint-Pierre Express.
Les réactions autour de cette table sur ce que vous venez d'entendre, ils sont exigeants.
C'est ça. Après, ils sont conscients du coup. Enfin, je pense qu'effectivement, ils se rendent compte de la réalité des choses et effectivement, ils savent que si on fait en place des actions, c'est effectivement parce que ça va être des choses qu'ils ont envie de faire. Mais après, je pense qu'ils sont aussi conscients qu'effectivement, c'est pas simple, que ça peut être compliqué pour eux, mais ça peut être aussi compliqué pour nous.
Voilà. Et puis, en fait, ils ont bien compris, parce que quand même, ils ont parlé, ils ont utilisé des mots tels que projet, notion de projet. Donc ça nous tient à cœur au sein du patronage laïque, la notion de se projeter. Toute sa vie, on est amené à se projeter. Donc ce genre de choses, moi, ça me fait plaisir d'entendre des enfants, là, en direct, dire parler de projet, parler de d'activité, de dire ce qu'on a envie de faire, d'avoir. Et tout à fait, le rôle de l'animateur, il n'est pas simple. On lui demande énormément de choses, de savoir réajuster, de s'adapter, d'avoir le sens des responsabilités, etc. Enfin, c'est un boulot énorme. Et du coup, moi, ça me fait plaisir parce que du coup, on voit bien que les enfants sont conscients et que, voilà quoi.
Oui, que c'est important.
Et que c'est important.
Et puis quand les enfants disent un bon animateur, c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est qu'il y a vraiment une relation de confiance entre l'enfant et l'animateur, quoi.
Oui.
Ils disent pas toujours ça de leur professeur.
Oui.
Mais je pense qu'ils ont les mêmes attentes aussi envers leur professeur.
Oui, moi j'étais enseignante et j'ai eu des liens par moments très forts avec des élèves. Et c'est que j'avais bien fait mon boulot. Enfin, j'avais l'impression que j'avais bien rempli mon rôle de pédagogue. Et,
Et même en termes de sécurité, ils sont exigeants. Ils veulent qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas de dispute. Enfin,
ils connaissent bien les règles.
Voilà, ils comptent sur l'animateur justement pour veiller à ça.
Il faut aussi leur donner des limites, hein. C'est ce qui se passe. Hein.
Ils ont besoin de limites et les réclament, même s'ils font des bêtises. C'est avec les bêtises que l'on grandit et du coup...
Oui, assurer notre rôle aussi, c'est là que ça les met en confiance. Si on n'a pas été capable de leur assurer le fait qu'ils soient en sécurité, on n'entendra pas un seul s'exprimer, ou peut-être si un seul s'exprimer, ce sera bien ça le problème. Donc pour être accepté dans ce groupe d'enfants, c'est aussi bien assurer son rôle par rapport à eux, quoi.
Notre émission touche à sa fin, il nous va falloir évoquer les actions qui ont pu être mises en place au cours de l'année. J'étais là par exemple en juin aux grands arbres. On peut peut-être en parler.
Oui, c'était la fête du patro.
Oui.
C'était la grande fête du patro. C'était une grande première pour nous. On avait pour habitude d'organiser une fête de patro ou d'étape ou de périscolaire en fin d'année scolaire. Et contrairement aux autres années, cette année, on s'était dit pourquoi pas faire tous ensemble un moment convivial de festivité à l'extérieur. C'était les beaux jours, forcément au mois de juin. Partager ensemble plein de choses, une scène, des spectacles, expos, jeux, jouer tous ensemble, parents, enfants, animateurs, manger également, parce que c'est toujours comme dirait Léo. Oui, c'est toujours un moment important. Et du coup, c'était une grande festivité qui avait été faite au sein des grands arbres et qui, à mon sens, a bien fonctionné. On a eu beaucoup de monde, il a fait très beau et c'était très agréable.
Concernant 2020, est-ce qu'il va y avoir des changements, de nouvelles actions?
Ah ben, on est continuellement dans les projets en tout genre. Là, cette année, donc, entre septembre et là, on a travaillé sur le projet des droits de l'enfant. On a travaillé sur différents petits projets. C'est aussi plein d'activités, plein d'actions, parce que la notion de projet, ça peut durer 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 1 an. Il y a parfois des projets qui sont sur une année. Et là, pour terminer, moi, je voudrais parler justement du projet radio. Donc, vendredi, sur l'ensemble des TAP de la commune, donc dans les différentes écoles primaires, il y a eu un projet qui a été mené sur la création du voyage des mômes. Donc ça, c'est notre spectacle de vendredi à 20h au centre culturel. Donc vous pourrez retrouver différents enfants, je ne vous en dis pas plus. La boîte, elle est magique. Elle est belle et de cette boîte va sortir plein de petites choses artistiques, culturelles, et, etc.
Et en direct sur Saint-Pierre Express. Merci à vous, Christine Chaffiol, présidente du patronage laïque, Marie-Jo Joly, directrice du patronage laïque, Bia Benjibour, coordinatrice pédagogique du patronage laïque, ainsi que Jennifer Salmon et Léo Haït Mohamed, qui furent animateurs, animatrices au sein du patronage laïque. On retrouve le patronage laïque après une pause musicale dans laquelle on vous souhaitera tout le bonheur du monde, bien évidemment, sur Saint-Pierre Express, pour retrouver le Ludobus.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.